Jersey, jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Marcel Kittel, superstar de ce Tour de France, troisième victoire d'étape pour le sprinter allemand de la formation Argos. Nous retournons derrière la ligne d'arrivée avec Pierre-Yves Leroux, qui est un nouveau client.
Anthony Delaplace, qui était dans cette échappée du jour, on va l'écouter. Il a été devant une partie de la journée.
J'avais des bonnes sensations aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière, où j'avais sauté vraiment tout de l'échappée. Là, les sensations reviennent bien là, depuis le début. C'est intéressant vu de la fin de semaine et de la troisième semaine. Après, c'est vrai, même si c'est de la montagne et que ça va être compliqué pour moi parce que je suis pas un grand peur, mais.
C'est... Okay. Merci, bon massage.
Anthony, juste un mot. Anthony, le moral est toujours bon.
Oui, bah, de toute façon, comme je le répète, je sais que je gagnerai jamais un sprint massif et je gagnerai jamais en haut d'un col, donc j'ai pas le choix sur des courses comme le Tour. Il faut que je tente de loin et bon, bah, je pense que d'ici la fin de ma carrière, ça va sourire un jour. Enfin, j'espère.
Il y a de la frustration évidemment. Et comment vous avez vécu la fin de l'étape là, avec cette chute?
Oui, bah la chute. Bon, bah j'étais dans les derniers du peloton, donc ça va. J'ai réussi à l'éviter quand même assez tranquillement. Mais après, c'est vrai que je sais qu'il y a Cyril Lemoine, mon coéquipier, qui a été pris dans la chute. J'espère qu'il a pas grand chose. Apparemment, il s'est relevé, donc ça va. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une chute quand ça arrive au sprint. Et après, bon, c'est le Tour, hein, c'est comme ça. Il y a toujours des chutes.
Merci beaucoup, Anthony Delaplace. Au bus Sojasen. Tout à l'heure effectivement de Cyril Lemoine, mais apparemment ça n'a pas l'air trop important puisqu'il s'est relevé sans trop de bobos.
Ouais, tous les coureurs ont pu franchir la ligne, Pierre-Yves, a priori, hein, y a pas
de ce que j'ai vu, ouais. Effectivement,
ouais. D'accord. Très bien. Merci Monsieur Leroux. On vous rappelle donc la victoire cet après-midi ici à Tours de Marcel Kittel. C'est le troisième succès pour le jeune sprinter allemand de la formation Argos. Impressionnant Kittel qui s'est payé une nouvelle fois le luxe, Cyril, de battre le roi Cavendish, le roi qui est peut-être en train de laisser son sceptre et sa couronne à Kittel. Hein.
Eh bien, pour l'instant, oui, trois manches à une. Kittel mène dans ce match. Alors, nous ne sommes pas encore arrivés à Paris. Je voudrais signaler que William Bonnet était également dans la chute. Hein. Ah, William oui, Bonnet oui. Qui était bien placé en tête de peloton et qui se battait pour essayer de rééditer son exploit de Saint-Malo, bien été pris dans la chute. Il finit d'ailleurs avec Cyril Lemoine, avec Seeberg, Arashiro, tous ces coureurs qui ont véritablement bien tapé. Seeberg semble d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, déjà très touché à la jambe droite, entre autres. Cyril Lemoine, effectivement, ne m'a pas semblé trop touché en passant la ligne.
Très bien. Fred.
Cyril Lemoine dit moineau. On parlait l'autre jour des surnoms dans le peloton. Cyril Lemoine, on le répète, dont on prendra des nouvelles tout à l'heure lorsque Pierre-Yves Leroux interviendra aux alentours de 19h20-19h30 en direct de l'hôtel de l'équipe Sojasen tout à l'heure. Mais rassurez-vous, tout le monde a franchi la ligne sur le vélo.
Et Chris Froome qui vient de se voir remettre un nouveau maillot jaune, toujours aussi dispo, toujours aussi sourire, Chris Froome. Mais pourtant, alors c'est quand même étonnant, Cyril l'a mentionné tout à l'heure, de le voir dans les 15 premières positions du sprint, alors qu'on sait que ça frotte et que ça chute. Il prend quand même, Cyril, des risques inconsidérés à ce niveau-là. Alors, il veut sans doute éviter la chute en se plaçant comme ça, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit pour éviter les chutes, de se retrouver dans les 15 premières places du sprint?
Oui, non, mais là je parle, on est à 1,5 km de l'arrivée, on a passé le panneau des 3 km et il y a de toute façon eu la chute. Il reste quoi? Il reste 25, on va dire à peine 30 coureurs dans le premier groupe. Il peut très bien se mettre à l'écart et se mettre dans les dernières positions, alors que là il venait se replacer par l'extérieur avant de passer dernier virage. Il y a une part d'inconscience, pour moi, il y a une part d'inconscience quand on est maillot jaune, quoi.
Est-ce qu'il ne sent
alors
pas...
que Boaz Van Hagen était dans la chute, lui, hein.
Est-ce qu'il ne sent pas ses jambes? Est-ce que ça pourrait être ça là?
Donc, je l'ai trouvé très nerveux, hein, très nerveux. Ouais, alors est-ce qu'il avait peur qu'il y ait une autre chute en 15e position, il voulait pas se retrouver derrière. Ouais. Enfin bon, alors il faut dire aussi une chose, hein, c'est que quand vous venez de voir une chute avec tous les bruits que ça représente, il y a peut-être un stress qui vous amène aussi à faire des fautes de comportement dans un final comme ça, et peut-être à plus forte raison quand vous êtes maillot jaune. Donc c'est il faudra sûr. Quand même que ces directeurs sportifs essayent de lui inculquer de rester un peu plus calme dans ces situations-là. Il est toujours très calme après la ligne d'arrivée, et vous l'avez à chaque fois souligné dans le cadre des interviews que vous pouvez faire avec lui. Là, il commence à devenir un petit peu nerveux, notre Anglais.
Luc, toi qui as remporté pas mal de courses par étape et donc porté le maillot jaune ou le maillot distinctif de leader du général, est-ce que quand on est dans cette position, on se sent le patron de la course et quand on est dans les meilleures dispositions physiques, on est capable de faire des efforts qui peuvent parfois être totalement inutiles, voire inconsidérés. Est-ce que ça change un homme?
Oui, tout à fait.
Luc,
de porter un maillot distinctif, un maillot de leader, c'est vrai que ça change complètement la donne et ça, l'état d'esprit aussi. Dans la course, le comportement, le placement, surtout en fin d'étape. Alors je comprends un petit peu la position un petit peu et l'état d'esprit de Chris Froome, même si on a passé, je dirais, le seuil des 3 km, de rester placé dans les 15 premiers. Bon, il peut toujours se passer quelque chose, même en dessous, même si on est dans le même temps, même si la chute est avant les 3 km. Tu comprends? Donc il veut éviter les chutes et bon, moi je trouve que c'est pas si mal que ça. Il se comporte très très bien. Je pense pas que ça soit de la nervosité.
Cyril a parlé d'inconscience tout à l'heure. Est-ce que tu as connu ce genre de situation où, puisqu'on est leader d'une course, simplement on ne s'appartient plus? Est-ce qu'on est euphorique à ce point-là?
Ben, on est euphorique, ouais. On est euphorique. Et puis, ne serait-ce que de porter un maillot, ben, on sent plus ses jambes à un moment donné. Et c'est vrai qu'on fait peut-être plus d'efforts qu'à l'habitude.
Bon, on va retrouver Pierre-Yves Leroux qui a peut-être un nouveau client. Et a priori, le directeur sportif de notre ami Marcel Kittel. Pierre-Yves.
Oui, Benny Cullen qu'on a entendu tout à l'heure évoquer Marcel Kittel. Ben, on va l'écouter après cette nouvelle victoire.
On a pas pris sérieux, mais non. Nous avons avait déjà une bonne idée pour le futur, des perspectives, une vision, et on a travaillé toutes les saisons. La qualité de l'équipe est augmentée, la qualité des coureurs aussi, et maintenant c'est top.
Est-ce qu'il se rend compte qu'il est parmi les 3 meilleurs coureurs du monde maintenant?
Oui, maintenant il a prouvé vraiment aujourd'hui, maintenant il a vraiment battu Cavendish et les autres sprinters, les autres jours aussi, mais maintenant il est au courant qu'il est le meilleur maintenant, pour mon avis.
C'était psychologique, Benny, il fallait une victoire sur ce tour pour que là il prenne l'ascendant sur Mark Cavendish.
Comment?
Ça joue aussi dans la tête?
Je crois aussi, oui, c'était son ambition aussi pour le prouver dans ce tour-là, parce qu'il l'a battu déjà quelques fois dans des autres courses, et vraiment battu, mais le tour c'est le plus haut niveau et ça c'était un goal pour lui pour le prouver ici, maintenant il l'a prouvé.
Ça va être compliqué pour Mark Cavendish sur la fin du tour maintenant.
Je pense et j'espère.
Vous nous disiez l'autre jour.
Son rêve est aussi de finir à Paris pour le Champs-Élysées. Ça, c'est aussi son grand vœu maintenant.
Comment on peut expliquer ce renouveau du cyclisme allemand avec 5 victoires d'étape déjà?
Oui, notre équipe, nous avons beaucoup d'Allemands dans notre équipe. L'Allemagne, c'est un pays très important pour notre sponsor aussi. Et nous avons aussi, comme équipe, pris la responsabilité pour renouveler le cyclisme allemand avec des jeunes coureurs. On les élève depuis ils passent professionnel. Et comme ça, c'est très important que tout se passe bien maintenant. Et surtout, comme par exemple Marcel Kittel, il a aussi une bonne figure. Il se représente bien, il est très sympa. Alors, il y a beaucoup de support et c'est très important aussi pour le cyclisme que le cyclisme allemand revient sur le même niveau qu'avant, que dans le passé. Et très important est que la télévision, évidemment, parce qu'ils font parler direct et aussi par le cœur, ils savent que c'est très important que la télévision allemande reviendra avec le direct dans le tour.
Vous avez déjà des retours là de l'Allemagne, vous sentez qu'il y a quelque chose là qui est en train de se passer?
Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de journalistes allemands qui travaillent ici, mais pas pour la télévision directe. Mais aussi, oui, ils m'ont dit que ça recommence un peu, oui. Parce que le cyclisme allemand était vraiment dans le trou.
Merci beaucoup Benny Kullen, donc le directeur sportif de Marcel Kittel, tout sourire, hein, vous l'imaginez.
Ah ben on comprend bien, c'est vrai que c'est important pour son équipe, c'est important pour son coureur et c'est important pour le cyclisme en Allemagne, car comme on le disait tout à l'heure et comme l'a confirmé le directeur sportif d'Argos, l'Allemagne ne diffuse pas en direct les images du Tour de France. C'est sans doute le seul grand pays de ce niveau à ne pas diffuser le Tour en direct. Ils avaient été marqués par les affaires de dopage et notamment celles qui avaient touché les grands pontes du cyclisme allemand, Ulrich, Zabel et compagnie.
On rappelle que l'équipe Argos Shimano n'est pas une équipe allemande. Elle compte effectivement en son sein Kittel et Degenkolb, mais elle est bien hollandaise.
On retourne derrière la ligne. Pierre Roland avec Pierre-Yves Leroux.
Et avec un maillot à poids, Pierre, toujours sur les épaules. Juste un mot déjà sur la fin de l'étape. Comment on surveille, comment on essaye de ne pas être pris dans la chute.
Moi personnellement, j'ai demandé conseil à Jérémy Roy. Je pense qu'il n'y avait pas plus local que lui et il m'a dit tout simplement que les 30 derniers kilomètres, il y aurait vent de face, donc rien à craindre à part des chutes. Il y a eu une grosse chute. Moi, j'étais pas là où j'étais placé, je craignais rien. Donc je serais classé dans le même temps que le premier, mais voilà, le but c'est justement d'éviter ces incidents-là et de passer une étape le plus tranquillement possible en vue de ce week-end et de la semaine à venir.
Donc c'est autorisé d'aller prendre des infos dans les équipes adverses?
Ah oui, c'est un coureur, il est de Tours, plus local que lui, c'était pas possible. Voilà, quand il m'a dit comment ça allait être le final, je savais bien qu'il n'y avait pas de soucis à se faire. C'était pas dangereux. C'est que les coureurs qui font la course, c'est eux qui la rendent nerveuse aussi.
Pierre, les auditeurs, les téléspectateurs attendent une victoire française. Est-ce que hier vous nous disiez c'est entre guillemets une journée de repos pour moi, ce contre-la-montre. Aujourd'hui et demain sont encore des étapes de transition. Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs que voilà, vous vous sentez prêt pour la grande bataille dans les Alpes?
C'est facile à dire, vous. Tout ce que je peux promettre aux gens, c'est de donner mon maximum et le meilleur de moi-même. Après, la concurrence est rude ici sur ce tour et le parcours est vraiment très difficile. Après, la seule chose que je peux promettre, c'est de me donner à 100%.
Toutes ces chutes, au moment du sprint, ça rend un peu fébrile?
Ça me rend fébrile, les chutes.
Oui, j'ai peur de tomber avant la montagne, quoi.
Ah oui, ça c'est vraiment... si on va au sol, il y a des gros risques de se faire très mal. C'est quasiment... On annule toute chance. On perd toutes ses chances parce qu'on est handicapé physiquement. Et le physique est touché. Donc il faut... Voilà, c'est vraiment une priorité de s'économiser et d'éviter ces grosses chutes.
Ce que je veux dire, c'est que vous faites attention à ça, vous l'appréhendez dans votre façon de rouler dans les 30 derniers kilomètres.
Ah oui, oui, oui. Quand on n'a plus rien à espérer au classement général, il n'y a pas. Quand on est dans les 20-30 derniers kilomètres, on sait qu'on peut aller tranquillement à l'arrivée. Il n'y a pas de risque à prendre. Je préfère être derrière, être un peu dans l'élastique, comme on dit. Mais aujourd'hui, il y a quand même eu un gros tas et ça, toute la journée, sentait qu'il allait avoir une chute à un moment donné.
Merci beaucoup Pierre Roland, donc porteur toujours du maillot à poids.
Et qui nous promet qu'il donnera le meilleur de lui-même pour espérer remporter enfin une victoire d'étape française, Fred. Parce qu'on l'attend toujours. L'an dernier on avait été gâté, 4 victoires. Cette année on attend toujours et on risque d'attendre encore un moment parce que les étapes qui se présentent ne sont pas faites pour les sprinteurs français, puisqu'il n'y en a plus vraiment, à part William Bonnet. Et qu'ensuite ce sera la haute montagne. Mais avec notamment cette étape au Ventoux, une course de côte où là, la leader du général vont se disputer la victoire.
Oui, mais paradoxalement, c'est peut-être là qu'il y a la plus grande chance de victoire française dans les jours à venir, parce que un coureur a coché cette étape et l'a repéré, comme beaucoup d'autres, hein, bien sûr. Ce coureur, il s'appelle Thibaut Pinot. Il n'a plus rien à gagner sur le classement général, et c'est vrai que ses qualités de grimpeur peuvent vraiment lui permettre d'aller décrocher une étape de rêve, parce que tout coureur cycliste qui se respecte rêve du Ventoux. Lux, tu n'es pas de mon avis.
Non, je suis pas d'accord avec toi, parce que pour le prestige de Froome et de voir un des leaders qui voudrait sauver un petit peu son Tour de France, l'étape du Ventoux restera, je pense, l'étape clé pour eux. Là où un Français éventuellement peut gagner, c'est Saint-Pourçain sur Sioule, arrivé à Lyon.
C'est à Lyon,
parce que c'est un terrain qui est très adapté aux puncheurs, aux baroudeurs, quoi. Hein, voilà, et je pense qu'un groupe risque de partir loin et arriver.
On verra. Le patron du Tour est aux côtés de Pierre-Yves Leroux.
Et il évoque le renouveau du cyclisme allemand avec nos confrères allemands. On va l'écouter.
Et là, on le voit tel qu'en lui-même, avec tous les espoirs qu'il avait fait naître il y a quelques années, en s'imposant notamment 4 fois de suite dans les 4 jours de Dunkerque. Bah là, il confirme, et il confirme au sommet, en battant en plus le maître, Mark Cavendish. Il a battu la référence absolue, là, aujourd'hui. Ça s'est joué d'un rien. Mais ça veut dire tout simplement que la suprématie de maître du sprint est en train de se jouer sur ce Tour de France.
Et pourquoi les Allemands sont trop très forts maintenant?
Ils sont spécialisés dans 2 domaines, celui du sprint, puisqu'il y a 3 victoires pour Marcel Kittel, 1 pour André Greipel, et puis par ailleurs pour Tony Martin, champion du monde du contre-la-montre, qui a triomphé sur son terrain de prédilection. Donc ils sont vraiment spécialisés là-dessus, et avec une réussite maximale. Mais encore une fois, je suis très impressionné par Marcel Kittel.
Merci beaucoup.
Voilà, Christian,
un peu tôt pour le dire, mais le sprint d'aujourd'hui peut y faire songer.
C'est un vrai renouveau là du cyclisme allemand qui est en marche.
Ah, ils ont à l'évidence un sprinteur de très très grande qualité qui est Marcel Kittel, qui a 25 ans, qui est le beau gosse, la belle gueule, etc., qui est évidemment très très rapide, qui promettait depuis plusieurs années, qui n'avait pas réussi ses débuts l'an dernier sur le Tour parce qu'il avait été malade, qu'il avait dû abandonner. Là, il est en pleine forme et il fait très mal à ses adversaires, sans aucun doute, dans la dernière ligne droite.
Et il y a aussi Greipel, il y a vraiment pas mal de victoires allemandes sur ce Tour de France.
5 victoires d'étape allemande pour l'instant sur le Tour, je crois que c'est pas arrivé depuis quasiment 20 ans, quelque chose comme ça. Donc évidemment c'est impressionnant dans des registres spécifiques du sprint, où ils sont évidemment très forts, avec Kittel la nouvelle star et avec Greipel le plus ancien, le fameux Gorille, qui a remporté une étape aussi sur ce Tour. Gorille, c'est son surnom. Et puis par ailleurs avec Tony Martin, le champion du monde du contre-la-montre, qui est lui aussi aujourd'hui, sans conteste, le maître de la discipline.
Ça peut annoncer un retour des télévisions allemandes, des journalistes allemands sur le Tour de France?
Ça, je sais pas, mais enfin bon, les médias, comme les gens, s'intéressent assez naturellement et légitimement à leur champion.
Merci Christian Prudhomme.
Merci Pierre-Yves. On va marquer un tout petit temps d'arrêt et se retrouver ici sur la ligne d'arrivée de cette 12e étape du Tour de France, donc remportée par Marcel Kittel. 5e victoire d'étape française, oh ça on rêve, il n'y en a toujours pas nous pour nous. 5e victoire d'étape allemande, le Tour des Allemands et le Tour des Néerlandais. On va en parler dans un instant avec un journaliste hollandais qui va nous expliquer en quoi là aussi c'est un renouveau pour les Hollandais. À tout de suite dans l'intégral Tour sur RMC.
Jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Voilà, toujours en direct de Tours à l'occasion de cette 12e étape du Tour de France. On écoutera Chris Froome dans quelques instants, qui est au protocole au micro de Pierre-Yves Leroux. Mais nous accueillons un confrère heureux, mon cher Fred.
Oui, il est hollandais, donc il est au cœur de l'actualité. On rappelle tout de même la victoire de Marcel Kittel, l'allemand, devant Mark Cavendish et Peter Sagan. Ici, la 3e étape pour Kittel depuis le départ de ce Tour de France. Le sprinteur allemand, il s'appelle Guillaume Lippe, journaliste à la radio hollandaise NOS. Et effectivement, on parle beaucoup du cyclisme allemand aujourd'hui. Bonjour, Guillaume, merci.
Bonjour, Fred.
Merci beaucoup de nous rejoindre. On parle cyclisme allemand, mais on parle cyclisme hollandais depuis quelques jours, depuis la traversée des Pyrénées, oui. Avec ces 2 coureurs qui sont de votre pays, Bauke Mollema, 3e du général, Laurens ten Dam, qui était 4e pendant plusieurs jours, qui est 6e depuis le contre-la-montre d'hier vers le Mont-Saint-Michel. On imagine que chez vous, aux Pays-Bas, il y a un enthousiasme que l'on connaît, mais accru, et que plus que jamais, la semaine prochaine, l'Alpe d'Huez sera tout orange.
C'est carnaval en Hollande, parce que c'est un peu comme le temps de Christian Teunis et Steven Rooks. Johan van der Velde, Joop Zoetemelk, Peter Winnen, tout le monde qui a fait bien dans les Alpes, et on expecte aussi un grand théâtre là-bas. Oui.
Alors, le cyclisme allemand a mangé son pain noir avec l'époque télécom, T-Mobile, avec les performances invalidées de Jan Ulrich, Matthias Kessler, Andreas Klöden. Il y a eu une période noire dans le cyclisme allemand. Il y en a eu une également, oui, dans le cyclisme hollandais. Rabobank a laissé beaucoup de plumes. Michael Rasmussen était maillot jaune. Il était danois, mais il était le leader de l'équipe Rabobank. Rabobank qui a cédé sa place dans le cyclisme professionnel masculin avec l'équipe Blanco qui a pris le relais. Aujourd'hui, elle s'appelle Belkin. C'est une nouvelle vague qui arrive, ou ce sont les restes de la génération pourrie?
Non, c'est une nouvelle vague. D'accord. Ce sont les nouveaux coureurs. Et c'est aussi en Hollande, hein, avec la période noire, l'hiver passé, avec la confession
de
Michel Bogert et autres grands coureurs en Hollande qui ont dit, OK, on a appris quelque chose et ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont appris? Mais maintenant, c'est la nouvelle vague des coureurs qui ont dit, non, nous voulons rouler, comment on dit ça?
Clean,
propre, c'est ça. Propre, c'est ça. Et bon, maintenant, je crois que c'est vrai que Robert Gesink, Bauke Mollema, Laurens ten Dam. Bon, Laurens ten Dam n'est pas si jeune.
Non. Hein,
mais c'est une personne qui grandit à un âge.
Et qui est peut-être à son niveau dans la hiérarchie d'aujourd'hui, peut-être un petit peu assaini.
Est-ce que la Hollande, on sait que c'est le pays du vélo, hein, tout le monde circule à vélo en Hollande, à Amsterdam.
On n'a pas des montagnes, ça c'est le problème.
Vous n'avez pas de montagnes, mais pourtant vous vous débrouillez bien, enfin vos coureurs se débrouillent bien dans les Alpes. Vous parliez de Zoutebel, qui en a eu de grands noms, évidemment, du cyclisme néerlandais. On a vu que les Allemands, la télé allemande par exemple, ne retransmet pas le Tour de France sur les chaînes importantes. C'est pas le cas en Hollande. En Hollande, on continue évidemment à suivre le cyclisme, même s'il y a eu, comme en France, comme en Italie, comme en Allemagne, une période noire. Hein,
on a eu des discussions en Hollande. Chez nous, chez notre station, c'est le radio et télévision publique, NOS, on a eu des discussions. On va continuer comme ça ou on va faire le vélo à une autre manière? Et on a décidé, non, on va
continuer.
Oui, on va continuer parce qu'il y a des coureurs maintenant qu'on croit et c'est une future.
Justement, ces coureurs, le jeune emblème, c'est Bauke Mollema, qui a 26 ans, qui est troisième du général, qui a déjà remporté des courses importantes, notamment sur le Tour de Suisse.
Il était quatrième une fois dans le Vuelta, et ça c'est un bon coureur. Il a pris le maillot à point là-bas, dans le Vuelta, deux années passées. Et c'est un coureur qui peut faire une grand tour, qui reste bien pendant trois semaines. Et ça c'est une chose, mais il n'a jamais l'a laissé voir dans le Tour de France et maintenant il est là.
Est-ce qu'il se surprend lui-même?
Oui, il se surprend lui-même, spécialement par le contre-la-montre, parce que normalement il n'a pas une figure pour le contre-la-montre en plat. Et hier, c'était une grande surprise qu'il était 11e, je crois, et qu'il a battu, par exemple, Contador, il a battu Valverde, beaucoup de coureurs qui ont plus d'expérience que lui. Et normalement, il est bien dans une contre-la-montre dans les montagnes, par exemple, en Brun, il va
il sera bien.
J'expecte quelque chose.
Et dans l'Alpe d'Huez, c'est la course mythique, c'est l'étape mythique pour toute la Hollande. Vous le rappeliez tout à l'heure, mais il y a ce virage orange où il y a la moitié des Pays-Bas qui est réunie au mois de juillet, hein, quand l'étape passe au pays.
On est tous en vacances là-bas. Ouais. C'est incroyable. Il y avait eu un pasteur, comment on dit ça,
pasteur
qui a laissé les cloches. S'il y avait une victoire hollandaise à Alpe d'Huez. Il l'a fait avec Peter Winnen, il l'a fait avec Henny Kuiper, il l'a fait avec Teunissen, Rooks, tout le monde. Mais il est mort maintenant, c'est dommage.
Donc on ne sonnera pas les cloches l'année prochaine.
Il trouvera des successeurs.
Il va y avoir beaucoup de Hollandais parce que deux fois la montée de l'Alpe d'Huez.
Ah oui, en plus là, oui. Non, mais ils sont déjà installés. Il y a déjà énormément de monde dans l'Alpe d'Huez en ce moment.
Mais la descente,
la descente,
c'est une chose.
Elle fait peur à tout le monde. Elle fait peur à tout le monde, cette descente. On aura l'occasion d'en reparler parce que là, tout le monde.
C'est très dangereux là-bas.
Évidemment. Merci de nous avoir accompagnés, d'être venu nous parler du renouveau du cyclisme néerlandais.
Guillaume Lippens, journaliste à la radio publique hollandaise.
Depuis longtemps, vous faites le cyclisme.
15 années.
Ah mince, ça fait 15 ans que j'ai arrêté, moi.
Mais j'ai vu à Otakam, peut-être. Victoire à l'Otakam, j'étais là.
Ah oui, d'accord.
Tout petit, à l'époque, en 94.
Il y avait eu Leblanc en tête et Leblanc, le directeur.
Jean-Marie Leblanc,
dans la voiture. Il était en panne dans la voiture. Il était en arrière.
Et à la radio hollandaise, vous faites l'intégrale du Tour de France. Comme vous, pareil.
C'est un programme de 2h de l'après-midi jusqu'à 6h30. C'était non-stop avec musique.
Vous avez de la musique. Mais nous aussi, on a de la musique. On a les chansons de Luc Leblanc.
Des musiques françaises chez nous.
Voilà, écoutez, c'est ce qu'on entend.
Hamilton.
L'enfant du pays.
Ça, c'est bon. Ah, c'est bon, ça. C'est bien français, ça.
Bah, oui, c'est très français.
Merci, en tout cas. Merci de nous avoir accompagnés. Et bravo à cette à ce cycliste néerlandais qui ressort la tête de l'eau après avoir été lui aussi comme le cyclisme français, italien ou espagnol, un peu dans la nasse. On va rappeler le résultat de cette 12e étape, Fred. Donc, nouvelle victoire pour Marcel Kittel.
Marcel Kittel, sprinter allemand de 25 ans, taille mannequin, un beau gosse au pouvoir du monde du sprint. Il devance pour une demi-roue ici à Tours, non pas sur l'avenue de Gramont, mais bel et bien au final, au terme d'un final un peu biscornu. Il devance Marc Cavendish d'une demi-roue. Peter Sagan est troisième, un sprint émaillé par une chute qui a compris une vingtaine de coureurs à moins de 3 km de l'arrivée. Kittel devant Cavendish et Sagan. Le maillot jaune reste sur les épaules évidemment de Christopher Froome. Maillot blanc toujours sur celle du Polonais Michał Kwiatkowski. Le maillot à pois est toujours la propriété de Pierre Roland. Et à part cela, notez que le combatif du jour s'appelle Juan Antonio Flecha. Dernier escapé de la grande échappée du jour, une échappée marathon de plus de 210 km au sein de laquelle on trouvait les Français Anthony Delaplace et Romain Sicard.
17h37, vous êtes sur RMC, l'intégral tour évidemment jusqu'à 18h. Nous reviendrons aussi entre 19h et 20h avec les débats et toute la Dream Team, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon et Cyril Guimard. Nous nous retrouvons dans un instant pour continuer d'analyser cette 12e étape et la victoire de Kittel. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, intégral tour, Christophe Cessieux.
Il est 17h42, vous êtes sur RMC, vous suivez avec nous la 12e étape du Tour de France. Elle est terminée, cette 12e étape, car le peloton est allé très rapidement, aujourd'hui très vite, pour rallier l'arrivée à Tours, vitesse express, et un sprinter express à l'arrivée qui remporte son troisième bouquet depuis le début de ce Tour de France. Et si Marcel Kittel était tout simplement devenu le roi du sprint, c'est vrai que Marc Cavendish a quand même du souci à se faire, Fred, battu, mais cette fois-ci en plus à la régulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu d'embrouille dans le sprint. Sprint régulier et Cavendish battu à la régulière par un Kittel des grands jours.
Après Bastia et Saint-Malo, effectivement, Marcel Kittel, le beau gosse du peloton, 25 ans, taille mannequin, coureur allemand de l'équipe Argo Shimano, qui effectivement se révèle comme le meilleur sprinter du monde sur ce Tour de France. En tout cas, il semble qu'un relais soit en train de se transmettre entre la génération, la vague Cavendish Greipel et ce Marcel Kittel qui vient leur damer le pion à tous les deux. Greipel était absent de l'emballage final aujourd'hui, pris dans une chute qui est intervenue à moins de 3 km de l'arrivée, qui a inclus 20 coureurs, dont Marcel Kittel. Apparemment, plus de peur que de mal. Peut-être que le plus touché sera Edvald Boasson-Hagen, le coéquipier de Christopher Froome, le coureur norvégien. Boasson-Hagen qui pourrait du coup manquer dans la montée des Alpes, dans la traversée des Alpes en troisième semaine, c'est à confirmer, mais a priori l'épaule ou la clavicule semble touchée pour le talentueux coureur norvégien. Victoire de Marcel Kittel donc ici à Tours devant Cavendish et Sagan. Le premier français au terme de ce final un peu agité, c'est Samuel Dumoulin, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale. Christopher Froome termine 12e du sprint et garde évidemment le maillot jaune du leader du classement général avec 3 minutes 25 d'avance sur Alejandro Valverde. Aucun changement, pas de changement non plus au classement du maillot vert. Peter Sagan est toujours leader du classement par points. Michał Kwiatkowski, le Polonais, est toujours le meilleur jeune du Tour, et Pierre Roland, porteur du maillot à pois de meilleur grimpeur.
Les tambours de Tours sont derrière nous et sont déchaînés. Cyril, Marc Cavendish est-il sur le déclin? Est-il dépassé par la jeune génération? Il n'y a pas beaucoup d'écart, il n'y a que 3 ans d'écart, j'ai regardé, entre Cavendish et Kittel, mais
et quelques centimètres sur la ligne, c'est tout.
Ouais, quelques centimètres qui font la différence, qui font toute la différence.
Non, on peut pas parler de, on peut pas dire aujourd'hui que Cavendish est sur le déclin, parce qu'il tombe, et c'est peut-être la première fois sur le Tour de France depuis tout du moins qu'il y participe qu'il y a autant de grands sprinters au départ. Alors vous prenez Greipel, Kittel, Degenkolb, Peter Sagan qui arrive. C'est vraiment un Tour où il y a des coureurs très 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 vite. Et si vous faites la moindre erreur, eh bien vous êtes puni. Et aujourd'hui, Cavendish ne fait pas d'erreur, mais surtout, Kittel fait le sprint parfait. Il est
pratiquement en 2-3e position, Kittel, à la sortie du dernier virage. Il se rend compte qu'il est trop vite dans le vent, il se relève, il vient se remettre dans les roues en 4 ou 5e position. Cavendish lance le sprint, Kittel est dans son sillage, et surtout Kittel va attendre, il va pas essayer de déborder aux 150 mètres, il va pas essayer de faire son effort aux 50 mètres, il essaye d'être le plus économique possible dans l'aspiration de Cavendish, et Cavendish qui va toujours très vite, mais dans l'aspiration, vous êtes un peu moins en anaérobie adaptique, et quand vous faites votre effort, eh bien vous avez 40 mètres où vous pouvez encore accélérer.
Kittel qui a pu bénéficier d'un excellent travail préparatoire de son équipe Argo Shimano, complètement dédié à ce nouveau roi du sprint. Effectivement, il est arrivé parfaitement placé et donc très frais. Aucun effort superflu dans la préparation du sprint. L'effort maximum, il l'a produit dans les 150 derniers mètres, pas plus.
Alors Cyril, on a nous aussi en France, parce que là, l'Allemagne mène 5-0 hein, face à l'équipe de France depuis le début de ce Tour de France. Bon, c'est pas du foot, c'est du cyclisme. 5 victoires d'étape pour les Allemands, toujours rien pour les Français. Mais on a en stock des petites pépites du sprint. Bon, on a eu malheureusement Nasser Bouhanni a fait une expérience un peu malheureuse sur son premier Tour de France. Il n'a pas vraiment été à la hauteur. Il a
tout comme une chute. Tout comme Marcel Kittel l'an passé, il découvrait le Tour et il a dû abandonner en fin de première semaine, vidé complètement. La prestation de Bouhanni nous rappelle celle de Kittel qui traînait sa misère l'an passé sur le Tour.
Je voudrais revenir sur une chose, c'est votre étonnement lorsqu'il a remporté la première étape à Bastia. Il y avait eu aussi bien sûr les incidents qu'on connaît, et entre autres la chute.
C'était un gros chantier.
Mais vous vous rendez compte qu'il ne gagne pas par hasard à Bastia, puisqu'il vient de rééditer deux fois son exploit de Bastia.
Mm-hmm. Bon, alors, Bouhanni c'est fait, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres en réserve. Il y en a d'autres qui vont venir se mêler à la grande bagarre et peut-être titiller les Kittel, Cavendish, Greipel et autres Sagan. Ils se nomment Cocard, ils se nomment également Démare, on en parlait tout à l'heure. Bon, ils sont encore un peu jeunes pour faire le Tour de France, mais je pense qu'Arnaud Démare l'année prochaine sera là et il est presque au niveau. Hein.
Il est clair que de Bouhanni, Cocard, Démare, ce sont trois sprinters de la pointure de ceux que nous voyons aujourd'hui dans les 4 premiers du Tour de France. Donc cette année, les Allemands mènent combien ?
5-0.
Alors ne vous inquiétez pas, peut-être que dans 3 ou 4 ans, ce sera la France qui mènera 5-0.
La roue tourne dans le vélo comme ailleurs.
C'est vrai que quand on a un sprinter ou deux, c'est quand même plus facile pour remporter des victoires d'étape sur le Tour de France. Hein, parce que c'est vrai que nous, Français, on se contente jusque-là des victoires des baroudeurs qui remportent les étapes.
Ou des grimpeurs
avec Pierre Roland ou encore Thibaut Pinot. Mais côté sprinter, ça fait un moment, hein, Lucho, qu'on n'a plus eu de garçons au haut niveau mondial.
Oui, c'est vrai. À l'époque, il y avait les Castins, Frédéric Moncassin, qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu. Mais par contre, c'est vrai que pour mettre un sprinter dans une équipe sur le Tour de France, on peut le mettre, mais à la condition qu'il n'y ait pas un leader en plus pour gagner le Tour. Ouais. Parce que là, c'est compliqué quand même.
Et c'est ça qui risque d'ailleurs de compliquer la tâche de Marc Madiot la saison prochaine. Parce que s'il vise encore le général avec Thibaut Pinot, on ne peut pas mettre toute l'équipe au service de Démare.
On ne peut pas faire le travail pour les sprints et puis en même temps pour un leader.
Et pareil pour la formation Europe Car, Cocard qui est donc coéquipier de Pierre Roland de
Thomas Vauclair. Mais à l'inverse, c'est pas la même façon de faire au niveau des Europe Car et de la Française des Jeux. Il y a plus de risques de protéger un Roland sur un Tour de France qui, on le sait, ne pourra pas accéder dans le top 5. Par contre, avec Thibaut Pinot, il y a un peu plus d'espoir. Mais bon, même si ce qui s'est passé cette année, c'est vrai, bon, la descente et tout, mais bon, il faut lui pardonner.
Je pense qu'il va s'en remettre.
C'est pas une faute, hein, c'est une carence technique, donc on n'a pas à le pardonner.
C'est une carence technique, mais il va l'améliorer cette carence là.
On espère, on le souhaite.
Le dernier vainqueur français au sprint, c'est pas compliqué, Luc, tu vas nous le sortir si tu colles, tu le dis.
Le sprint français ?
Le dernier vainqueur français.
Moi je vois que Frédéric Moncassin.
Non. Christophe.
Eddy Seigneur.
Non, Cyril.
Sur les Champs-Élysées.
C'est pas compliqué.
Sur les Champs-Élysées.
Samuel Dumoulin s'était imposé à Nantes, mais de manière détachée devant Romain Feillu. Le dernier vainqueur français au sprint, c'était en 2006 à Strasbourg, et c'était Jimmy Casper.
Ah oui, c'est exact. On l'avait oublié.
Ça fait 7 ans.
On l'avait oublié, Jimmy. Ouais.
Voilà. Jimmy Casper. Jimmy, effectivement.
Aujourd'hui retraité, qui s'occupe de jeunes cyclistes en herbe là-haut dans sa Picardie.
Et il nous a pas s'il fait pas du full contact.
Ah, du foot. Oui, ah, bah oui, non, mais ça, les sprinteurs sont des bagarreurs. Boigny fait de la boxe, Casper qui fait du full contact. Tiens, on a la réaction de Chris Froome, le maillot jaune, toujours maillot jaune de ce Tour de France, qui a pris des risques. Il était dans les premières positions tout à l'heure lors de ce sprint mouvementé, mais pour l'instant, qui s'est déroulé de manière tout à fait parfaite. Chris Froome.
Oui, aujourd'hui et demain, ils sont toujours à rester au peloton et attendez les Alpes qui arrivent ce week-end.
Ça vous stresse ce genre d'étape où ça frotte évidemment?
Non, il n'y a pas une étape facile ici autour et aujourd'hui quand même, il a été dur, une étape dure, plus de 200 km.
Chris, pourquoi vous allez dans le sprint? C'est dangereux?
Oui, c'est toujours dangereux, mais il faut garder le temps et pas perdre quelques secondes au final.
Merci beaucoup. Chris Froome avec son maillot jaune qui répond de manière courte, un peu au sprint également cette interview.
Très bien. Oui Fred.
Vous avez entendu le sourire dans la voix. On apprend ça dans les écoles de journalisme pour faire de la radio. Apparemment, il n'a pas eu besoin de passer par quelques cours que ce soit. Même après une étape de 220 km au terme de la 12e journée de course sur le Tour, Christopher Froome, au terme d'un sprint échevelé, là où il a fait l'effort, il répond avec le sourire. Cyril, est-ce que tu as connu un maillot jaune aussi décontracté sur les 20 dernières années, aussi affable?
Ben, c'est vrai qu'avec Cadel Evans, c'était pas évident.
Ouais. Et pourtant, il était d'une relative douceur.
Ouais. Ah, tout à fait. Ouais. Il l'est toujours, mais je crois qu'il faut se méfier, puisque j'ai été aussi coureur cycliste.
Ah bon?
Après l'arrivée, si vous êtes interviewé dans le quart d'heure qui suit, vous êtes un petit peu sur un nuage parce que vous avez produit pas mal d'adrénaline, d'endorphine, de dopamine.
Et donc, dopamine,
vous êtes euphorique.
Il y a eu le podium également, ça flatte l'ego.
Voilà. Donc là, vous êtes bien parce que en fait, tout réussit, on vous remet un maillot, vous avez gagné l'étape. Donc vous êtes dans une forme d'euphorie qui fait que si votre tempérament est naturellement
enjoué,
donc là, vous allez être véritablement vous-même, au-delà même de votre propre conscience.
Ce n'était pas forcément le cas pour tous les maillots jaunes de ces 10, 15 dernières années.
Il y en a qui se la pètent aussi et qui se la jouent. Hein,
et il y en a qui avaient beaucoup de choses à se reprocher. On se rappelle dans le protocole de Lance Armstrong qui prenait un malin plaisir à vous jeter un regard glacé dans les yeux et qui vous pétrifiait comme ça. Ce n'est pas encore le cas pour Christopher Froome.
Là, c'est de la composition.
Comment ils étaient...
On joue un jeu.
Comment ils étaient nos deux membres de la Dream Team là, avec les journalistes justement quand on venait vous poser des questions? Moi je me souviens être allé poser des questions à Lucho dans le Tour de France 97 me semble-t-il. Tu acceptais les questions, tu étais plutôt sympa avec les journalistes.
Moi je pense que j'ai jamais cogné un journaliste ou renvoyé un journaliste sur les roses.
T'aurais pu essayer en marque.
Non, mais je pense que j'ai toujours accepté les questions avec le sourire. Enfin bon, je sais pas. Moi c'est aux médias de se rappeler de ce que j'ai pu faire et tout, mais je me souviens pas avoir
Toi, Cyril,
mal réagir.
Alors tout dépend comment s'étaient passés les 300 derniers mètres.
C'est-à-dire si tu décrochais le bouquet, évidemment tu avais le sourire.
Oui,
si
mais je pouvais aussi être très agressif parce que il y a l'adrénaline qui permet, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'être zen, et puis il y a l'autre qui vous rend méchant. Et celle-là, effectivement, derrière une ligne d'arrivée, quand ça a pas marché, vous avez frotté ou qu'on vous a frotté un peu trop, qu'on vous a fermé la porte, volontairement ou involontairement, de toute façon, il y a que soi qui compte. Des fois, vous étiez assez agressif.
C'était quoi ton surnom? C'était pas le druide à l'époque, hein?
Non, c'était petit chef en tant que coureur, et à la fin, on m'appelait Napoléon.
Napoléon, ça avait été ressorti par Eddy Merckx l'année dernière.
Et après le druide.
Le druide, c'est nouveau, ça date d'il y a 2-3 ans. Le druide, c'est voilà. Copyright, Christophe Cessieux. Messieurs, merci. On va se retrouver tout à l'heure, évidemment. Fred part à la télé. Cyril reste là puisque Virginie Fulpin va t'entreprendre dans quelques minutes. Elle n'est pas encore là. Et puis Luc Leblanc va aussi faire un peu de télé dans quelques instants si vous voulez les voir. Si vous voulez voir leur magnifique bobine, vous allez sur BFM Télé. Mais restez avec nous. Il va se passer plein de choses, évidemment. À commencer par les courses avec Sébastien Darras. Lui aussi, il est pas mal. Il pourrait faire de la télé. Salut Seb.
Salut Chris. C'est gentil ça. On était à Chantilly cet après-midi. Un beau site hein, également, l'hippodrome des Princes de Condé avec un quintet remporté par le 6 Pink Style devant l'As Zamam, la 3e place pour le 11 Russian Reel, la 4e pour le 2 Mudish et c'est le 14 Guya qui se casse 5e, 6 As 11, 2 et 14. Il y avait un non partant le 13 et c'est un beau quintet qui rapporte 37 000 euros dans l'ordre. Demain, comme tous les vendredis, on galopera l'après-midi, ça sera sur l'hippodrome de la Teste et le quintet se déroulera en nocturne du côté de la Côte Fleurie, du côté de l'hippodrome de Cabourg. Ils sont 16 au départ et je vais vous conseiller la plus riche de cette épreuve, le 16 Rizona, qui reste sur une victoire. C'était sur l'hippodrome de Reims. Je pense qu'elle peut doubler la mise. Et attention, un outsider, le 14 Ramsès du Prieur. Il est comme nous, il revient bien avec le retour des beaux jours et je pense qu'il ne va pas tarder à surprendre les bonnes infos, y compris pour les autres courses de ces réunions. Direction rmcsport.fr.
Merci Seb, bonne soirée.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Bientôt 18h, it's Fulpin time. Salut Virginie.
Quel accent Christophe.
Oh, magnifique.
Magnifique. On a un beau programme dans l'intégral sport et je vais être obligé en plus de demander à Cyril Guimard tout à l'heure si Marcel Kittel est maintenant le meilleur sprinter du monde devant Marc Cavendish. On n'a plus trop le choix puisque l'Allemand a remporté sa 3e victoire d'étape sur le Tour de France. Christophe Galtier, l'entraîneur de Saint-Etienne, sera avec nous après 18h30 et René Girard, le nouveau coach de Lille, sera là lui à 20h30. Vous savez aussi que l'équipe de France féminine de football commence son Euro demain en Suède. On en parlera avec le sélectionneur Bruno Bini avant 19h. À tout de suite.